grand-chose. Voilà. Bon, Arnaud a dit qu'effectivement, je suis monteur et que je parlerai tout à l'heure de cet endroit-là. Je ne suis pas un critique de film. Je parlerai plutôt de la question de... du point de vue, le film du point de vue de la salle de montage, comment ça se fabrique, comment on gère le temps, comment on fabrique des récits, et donc évidemment en se servant de Zoo. Juste peut-être pointer que je vais m'arrêter spécialement sur une séquence du film qui est, vous allez voir, je ne vous dévoile rien, la mise bas d'une femelle rhinocéros. Voilà, et donc je m'arrêterai un peu plus précisément sur cette séquence-là. Peut-être quelques... Non, tu donnes des détails sur le film. Donc le film donc, est de 92. Il est dans un micro-cycle de Wiseman qui est plutôt sur une période, on va dire, plus loisir. C'est-à-dire que ces trois films qui suivent, il y a Aspen qui est sur une station de ski. Dans l'ordre Central Park, donc sur le Central Park à New York, puis Aspen, puis Zoo. Il sort juste avant de Near Death, qui est un film qui se passe sur les soins palliatifs dans un hôpital à Boston, et que peut-être qu'il a besoin de prendre un peu l'air. On va voir que c'est pas si simple que ça de prendre l'air dans un zoo, mais voilà. Et donc on parlera de tout ça après.
Merci beaucoup Luc. Juste pour prévenir les habitués ou non, comme le film est un petit peu plus long, hein, un petit peu plus de 2 heures, on prolongera l'échange jusqu'à 17h30 environ. Voilà. Bonne séance, à tout à l'heure.
Bon, voilà, c'est un peu dur de reparler directement après une telle traversée. Je vais des fois m'éloigner beaucoup du film pour essayer de faire comprendre quelque chose qui m'est cher, c'est que j'essaye de parler du point de vue de la fabrication et d'essayer de comprendre comment on arrive à ce résultat-là. Et évidemment, pour ça, je dois vous repositionner dans la question de la salle de montage, avant toute chose. Moi, je suis convaincu que les manières de faire... sur les traces de Comolli sont toujours des formes de pensée, et c'est ça que j'essaye d'expliquer, ce que je vais essayer d'expliquer là, comment les choses se fabriquent pour essayer de mieux les comprendre. Alors, je vais faire vraiment un détour initial loin du film, pour commencer par parler du tournage, parce que c'est une chose très importante dans la salle de montage. Imaginons qu'on fasse un film sur ce qui se passe ici, sur cette conférence que je donne, je parle, et imaginons qu'on ait à le filmer. Alors, on pourrait imaginer, j'ai déjà été filmé à la BPI, il y avait 2 caméras, une caméra là, une caméra là, et on filmait, j'étais avec Claire Simon, avec Arnaud qui était là aussi, et on parlait. Et ça a été filmé, comme ça, uniquement sur ceux qui parlent. Mais on pourrait imaginer un tout autre film qui serait pas moins intéressant, où les caméras seraient braquées dans l'autre sens et qu'on voit qui assiste à une conférence à la BPI. Et évidemment, ces deux films seraient également vrais. Ce serait une réalité qui a été filmée et ce seraient des rushs qui seraient amenés. Peut-être qu'un anthropologue du futur serait beaucoup plus intéressé par le film qui regarderait les spectateurs, qui s'intéresserait à qui est là, l'âge des gens, est-ce qu'ils ont l'air intéressés, est-ce qu'ils réagissent, est-ce qu'ils s'ennuient, etc., etc., etc. On pourrait aussi avoir un troisième film où il y aurait ma mère est présente dans cette salle, il pourrait y avoir un champ contre champ sur un plan sur ma mère et un plan sur moi qui parle. Et dans ce cas-là, ce serait encore un autre film qui serait sur que pense la mère quand elle voit son fils parler. Ce serait un truc sur la transmission, etc., etc. Et donc, ce serait un troisième film. Pourquoi je raconte tout ça, qui a l'air un peu idiot, c'est que, évidemment, quand on est au montage, cette question-là est essentielle. Qu'est-ce qui a été filmé ? Qu'est-ce qui a été filmé et, évidemment, la conséquence de ça, qu'est-ce qu'on va monter ? On ne peut monter au montage que ce qui a été filmé. C'est un truisme énorme, mais en même temps une réalité très puissante. Tout ça pour dire que, au montage, contrairement à la mythologie qui est de dire on peut tout faire au montage, je préfère une position beaucoup plus humble qui est de dire au montage on fait avec ce qu'on a. Ce qui est radicalement différent. Au montage, on n'invente pas un plan qui n'existe pas. On n'invente pas la beauté d'un plan. On n'invente pas une émotion qui transparaît dans une parole. Tout ça, on ne l'invente pas. Au montage, on fait avec ce qu'on a. La magie du montage, c'est de coller des plans, de les rallonger, de les raccourcir et de les déplacer. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et c'est juste pour ramener sur le montage, sur, évidemment, c'est toujours ça la question du montage, celle de l'organisation. Donc c'est à ça que je vais m'atteler maintenant. Alors, on va revenir sur Zo. Je vais vous lire un petit extrait du journal qu'a écrit Frédéric Wiseman pendant le montage de Zo. Il écrit, à propos de la maman rhinocéros, pardon, je reviens sur cette séquence que je vous avais promis d'en, parler. Maine, 13 août 1992. La maman rhinocéros a mis 11 heures à mettre bas. Juste après la naissance, elle a reniflé le bébé et s'est éloignée. Le conservateur du zoo a sorti le bébé mort-né de l'enclos. Le vétérinaire lui a fait du bouche-à-bouche relayé par le conservateur qui massait la poitrine du bébé, mais il n'a jamais pu respirer. Le vétérinaire a pleuré. Le conservateur et les gardiens étaient tristes. Le bébé mort a été placé à l'arrière d'une camionnette qu'il a emportée à la morgue. Il poursuit. Je viens d'écrire un résumé de 86 mots qui se lit en 11 secondes. D'un événement qui se déroula en réalité sur 11 heures et dont environ 3 heures ont été filmées. Mon travail de monteur consiste à condenser le spectacle et l'enregistrement de la naissance du rhinocéros sous une forme qui fonctionne en tant que séquence individuelle tout en se fondant dans le rythme et la structure de l'ensemble du film. Alors, on voit bien ici le problème qui se pose à Wiseman. Qui est de partir d'un événement qui vit pendant 11 heures, dont il va sortir 3 heures de rush, et pour une séquence qui, au final, durera 8 minutes. Cette histoire du temps est un des fondements du montage, comment le temps réel se transforme dans le temps de sa représentation, dans le temps du film. Comment de 11 heures, on passe à 8 minutes. Alors, évidemment, la grande différence entre les deux temps, c'est que un événement, dans la réalité, un événement, on ne peut pas sauter, quand on vit la réalité, on ne peut pas sauter la moindre seconde, la moindre minute, la moindre heure. C'est impossible. Et donc, alors qu'un événement filmique, évidemment, on peut sauter du temps. Donc, le temps réel est absolument insécable, on ne peut pas le couper. Et évidemment, les morceaux de film après sont des segments de temps, qui sont raccordés entre eux. Ce qui fait qu'un raccord entre deux plans signifie, par rapport au temps réel, toujours un ailleurs ou un plus tard. Éventuellement, un ailleurs et un plus tard. C'est-à-dire que si, par exemple, on me voit ici, il y a un plan sur moi qui est en train de me filmer, et que on voit quelqu'un qui écoute, c'est un ailleurs. C'est un ailleurs. Comme s'il ne passait pas de temps entre le moment où on me voit et le moment où on voit la personne qui écoute. Si on me voit en train de parler et que tout d'un coup, sur le même plan de moi, je passe à une phrase suivante, éventuellement c'est un plus tard. Ou si on me voit en train de marcher dans la rue après, c'est un ailleurs et un plus tard. D'accord ? C'est le principe entre le temps réel et le temps du film. Alors maintenant, on va essayer de s'approcher un peu plus de ces raccords et d'essayer de comprendre comment fonctionnent les raccords. Et on va revenir à Wiseman et au rhinocéros. Juste une petite chose, c'est que un raccord, il y a toujours la dernière image du plan et la première image du plan suivant. Jean Rouch raconte cette histoire qu'il a eu deux monteuses. Une monteuse qui croyait que le plus important dans le raccord, c'était la dernière image, et une autre monteuse qui pensait que l'image la plus importante dans le raccord, c'était la première image. Donc c'est sur cette chose-là qu'on va s'arrêter. On va essayer de comprendre pourquoi dernière image ou première image. Je vais vous montrer un premier enchaînement de plans dans Wiseman. Si ça marche. Ça marche. Donc, il s'agit de l'attente, là. Donc, cinq plans, pardon. Dans le premier, une femme regarde avec ses jumelles. Dans le second, le rhinocéros. Troisième, on voit la femme qui regarde. Elle baisse la tête, c'est le même plan. 3A, 3B, c'est le même plan. Elle baisse la tête, elle regarde et elle écrit quelque chose sur le papier. Cinquième plan, le rhinocéros. Alors, comment ça fonctionne ça ? Une femme regarde dans ses jumelles. Qu'est-ce qui se passe pour le spectateur à ce moment-là ? Le spectateur a le désir de voir ce qu'elle regarde. D'accord ? C'est que le plan de la femme fait la promesse du plan suivant. Ensuite, on passe au rhinocéros, donc naturellement, on va au plan suivant. La dernière image de la femme appelle la première image du rhinocéros. On reste un temps sur le rhinocéros, on voit la femme qui le regarde, qui baisse la tête. Qu'est-ce qu'elle regarde quand elle baisse la tête ? Son cahier sur lequel elle note quelque chose. Ensuite, on revoit le rhinocéros. À chaque fois, tous ces raccords-là sont des raccords qui s'appuient sur la dernière image. La dernière image du plan promet le plan suivant. Et, d'une certaine manière, ces dernières images, on a comme spectateur le désir de la voir, et ce qui fait que l'impression qui est faite, c'est que notre désir est contenté. Et on n'a aucun choc dans les raccords, aucun choc. Chacun de ces raccords est juste un ailleurs. Il n'y a pas de temps qui passe dans l'œil du spectateur entre chacun de ces plans. Il y a une continuité temporelle, on restitue à ce moment-là une continuité temporelle. Donc, ensuite, évidemment, on va dire que ce type de montage est ce qu'il y a de plus naturaliste. C'est un montage naturaliste où le temps du film semble se dérouler dans le même temps que le temps réel, dans le même rythme que le temps réel. On va voir dans cette même séquence un autre type de raccord. Et donc là, on a au début la même femme qui prend des notes, même principe. On voit ce qu'elle est en train de noter. Mais le troisième plan, ça n'a plus rien à voir. C'est une rupture, on ne s'attend pas à ce plan-là. Ce plan-là n'est pas annoncé par le plan précédent. D'accord ? De la même manière que le quatrième plan n'est pas annoncé par le plan précédent. D'accord ? Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a des ruptures et que, évidemment, comme on a une rupture et qu'on a une discontinuité temporelle, le sens que prend le raccord est différent. Qu'est-ce que raconte ce raccord ? Parce que, évidemment, le spectateur, s'il n'a pas la continuité temporelle, le spectateur se pose des questions. Puisqu'il y a une rupture, que raconte cette rupture ? Et ici, ce que veut raconter Wiseman, dans cette série-là, il y en a d'autres après des plans identiques, c'est la question de l'attente. Ce que racontent ces raccords, c'est autre chose, ce n'est pas une continuité temporelle, c'est le temps qui passe et c'est l'attente. Et on comprend bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ces plans qui vont sur la dernière image et qui nous envoient au plan suivant, plutôt que ces plans qui attaquent une première image et qui nous racontent autre chose. Voilà. Et donc ce sont des raccords de la rupture. On pourrait dire que même de manière encore plus explicite, donc je voulais rester sur cette séquence là mais de manière encore plus explicite, dans la séquence suivante, le lendemain matin, bon, j'ai pas les images là, mais on voit encore mieux que c'est des morceaux de temps qui sont montés quand le gars va visiter les animaux, quand il est dans sa voiture, puis tout d'un coup on le retrouve plus tard, il est en train de parler aux lémuriens, puis un peu plus tard il va voir la femelle rhinocéros, des bouts de voiture, etc. Et que du point de vue de la temporalité et du rapport au temps réel, c'est des morceaux de temps qui se succèdent, parce que ce que raconte ce temps-là, ce n'est pas le temps réel, mais le temps de la visite. C'est un temps à part, qui est le temps de la visite. Voilà, et je voudrais maintenant faire une troisième remarque, toujours sur cette séquence-là. Ces quatre plans-là, on a notre logique identique, la femme regarde, écrit le rhinocéros, on voit ce que fait, elle écrit ce que fait le rhinocéros et on voit ce qu'il fait, raccord logique, et la nuit tombe. La remarque que je voudrais faire ici, c'est que, évidemment, la nuit tombe pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il se passe ici, on va dire, au moins une heure entre le premier plan et le quatrième plan. Au moins une heure, le temps que le soleil se couche, que le ciel rosisse ou devienne violet. Et donc, il se passe du temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit le film, on ne s'aperçoit pas qu'il passe du temps, et surtout, on ne se dit pas qu'il passe une heure ou deux heures. C'est pour une raison très très simple, c'est que en fait, on voit, on pourrait même dire que d'ailleurs le rhinocéros devient un peu violet dans le troisième plan. Mais on ne s'en aperçoit pas. Et pour quelle raison ? Pour une raison très très simple, c'est que si les plans sont des morceaux de temps qui avancent, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que le son est un continuum. Il y a une continuité du son entre le premier et le quatrième plan. Ce qui fait que si les plans sont comme les marches d'un escalier, on avance un cran, un cran, un cran, le son, lui, est une montée douce et lente, car on n'entend jamais les changements de son. En fait, si on écoute très précisément, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, des grillons arrivent, et que la nuit arrive par le son des grillons, mais la progression du son est continue. » Donc voilà, sur cette question du temps, alors on pourra revenir, on pourra poser des questions après. Je voudrais avancer un peu parce que, évidemment, je sais que j'ai pas énormément de temps pour parler. Je voudrais maintenant parler d'autre chose par rapport au montage. C'est que la grosse différence entre le critique ou le spectateur et la salle de montage, c'est que quand on regarde un film, on ne voit que ce qui est monté. C'est le principe. Évidemment, quand on est dans la salle de montage, ce n'est pas obligatoire. On peut voir ce qui est monté et on peut voir ce qu'on ne va pas monter. Et on peut voir ce qu'on va enlever. Alors, c'est la grande chose qui est... Je pourrais faire une analogie, par exemple, avec la peinture chinoise, contrairement à la peinture européenne, fonctionne sur un système de vide et de plein. D'accord ? J'ai d'ailleurs, je peux vous montrer une image là. Donc ça, c'était une peinture chinoise de Chi Baiqi. Et le principe de la peinture chinoise, c'est de dire le fond, c'est du vide. Et que la seule chose que le peintre fait, c'est mettre du plein sur ses vides. Et que c'est ça qui fait le sens du monde. Évidemment, si on compare avec la peinture européenne, notamment, l'eau sera une surface peinte. Or, dans la peinture chinoise, non. Et ce vide et ces pleins, c'est ce qui fait le sens du monde. C'est-à-dire que, par exemple, là, les branches de l'arbre, c'est ce qui fait que, tout d'un coup, ça relie la barque au bord de la rivière. Mais évidemment, ce vide est très actif. C'est ça qu'on va voir après par rapport au montage. Le vide est très actif parce que, par exemple, si on voit ce pêcheur et qu'on voit sa ligne qui s'enfonce, le point de jonction entre la ligne qui disparaît, elle ne disparaît pas dans une surface, elle disparaît dans le vide du monde. D'accord ? Ce qui est très différent. Donc, on va voir comment ces choses-là, évidemment, se pensent au montage. Alors, c'est très compliqué parce que je ne connais pas les rushs du film de Wiseman, et donc je vais fabriquer artificiellement un vide dans la séquence de Wiseman. Pardon. Donc voilà notre séquence de Wiseman, dans laquelle j'ai enlevé tous les plans de rhinocéros. C'est ce que j'appelle le vide du rhinocéros. Donc, on a maintenant la même séquence. Alors, c'est la séquence de l'attente, hein, juste. C'est pas la séquence de l'accouchement de la mise bas. C'est la séquence de l'attente. Donc, voilà. On peut regarder cette séquence et on va s'apercevoir que, avec cette absence du rhinocéros, notre manière de regarder la scène va être très différente. Si je regarde ça, je ne sais pas ce qu'il regarde. Évidemment, puisque je n'ai rien. Je ne sais pas ce qu'il regarde, et donc, si je ne sais pas ce qu'il regarde, je vais chercher, dans la moindre réaction de ce qu'ils ont, le moindre haussement de sourcils, je vais regarder sur le carnet de la femme ce qu'elle écrit pour comprendre ce qu'elle est en train de regarder. Et donc, je vais avoir une attention décuplée, sur ces gens qui regardent, sur ces télés qui filment, etc., et sur ces gens qui sont installés là. Mon regard sur cette séquence va se modifier déjà pour cette raison. Mais la deuxième chose, encore plus intéressante, c'est que quand je voyais les plans du rhinocéros, je savais ce que les gens regardaient. Et donc, de la même manière que je regardais ce rhinocéros. Et ces gens qui regardent le rhinocéros sont un miroir de moi-même. Dans le cas où il n'y a pas de rhinocéros, le changement qui va s'opérer, c'est que je regarde ces gens de l'extérieur. Ils sont l'objet de mon étude. Ils ne sont pas comme avant des gens qui regardent un rhinocéros. Ils ne deviennent, eux, que l'objet de mon regard, le sujet de mon regard. Et je les regarde absolument différemment. Tout ça pour expliquer que, évidemment, dans un film, ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas est extrêmement important. Et que, bien évidemment, le spectateur ne voit jamais ce qu'on ne montre pas, c'est le principe, et ne peut pas avoir cette sensation-là de qu'est-ce qu'il ne voit pas, et donc qu'est-ce que ça fabrique de ne pas voir un certain nombre de choses. Voilà. Alors, ensuite, je regarde si j'oublie pas des choses. Alors, je voudrais maintenant attaquer quelque chose de très important, et notamment pour Wiseman, pour les films de Wiseman d'une manière générale, et pour le montage aussi, qui est la question de l'organisation du récit documentaire. C'est une chose essentielle, vraiment essentielle, à laquelle on ne prête pas beaucoup attention parce que le documentaire a toujours cette réputation, cette manière d'être proposé, d'être toujours un sujet. On dit toujours, c'est un film sur un zoo, c'est un film sur tel événement, c'est un film sur telle tribu, c'est un film, etc., etc. C'est toujours le sujet qui est au cœur de la description du documentaire. Mais dans la salle de montage, la question du sujet est un peu secondaire. La question essentielle est de savoir comment on va organiser le récit documentaire. C'est une chose essentielle. Et évidemment, qui va poser la question de savoir quelle est la séquence qu'on va montrer après telle autre, par exemple, une question aussi bête que ça. Donc dans le film que je voulais faire ici tout à l'heure, c'est ok, je filme cette conférence, il y a des gens qui écoutent, etc. Mais quelle est la séquence suivante? Qu'est-ce qu'on monte derrière? Et évidemment, tout va dépendre de quel récit on suit. Si par exemple, on suit le récit de mon histoire, la séquence suivante peut très bien être je suis chez moi, je mange avec ma femme, etc. On prépare à manger, etc. Si c'est ça l'histoire qu'on suit. Mais si le film est par exemple un film sur la BPI, la séquence suivante peut tout à fait être une séquence dans la bibliothèque au-dessus, ou une séquence au restaurant, s'il y a un restaurant à la BPI, ou une séquence sur les vigiles qui sont en bas. On est bien d'accord que la question de la logique du récit fait que ça va amener telle ou telle séquence après. Je ne vais pas rentrer sur, parce que j'ai un peu théorisé ces histoires de logique de récit, je veux juste dire, pour être avec Wiseman, que le principe de tous les films de Wiseman, sans exception, c'est la question du lieu. C'est le lieu qui détermine l'organisation du récit. Ce qui veut dire ce que j'appelle, moi, les films paysages. Les films paysages qui disent c'est un lieu, donc simplement la séquence suivante chez Wiseman, mais si je fais un film sur la BPI de la même manière, c'est que la séquence suivante n'aura pas besoin d'une autre justification de récit dans la mesure où elle est située dans le cadre de mon paysage. C'est-à-dire que là, on ne se pose jamais la question de pourquoi on se retrouve là, puisqu'on est dans un zoo et qu'on est toujours dans ce zoo. Donc on n'a pas besoin d'autre explication que l'explication de la contiguïté. Si par exemple je faisais un récit chronologique, l'histoire de quelqu'un, la logique serait celle de la successivité des événements dans la réalité. Si, par exemple, je dois monter le résumé d'un match de foot, qui est un film chronologique, je commencerai par le début du match de foot, je montrerai les buts, le premier but, le deuxième but, le troisième but et la fin du match. La logique chronologique fait que ce serait ma logique de récit. Alors, donc, on est donc bien sur cette idée-là que Wiseman est dans la logique du film paysage et que c'est un cadre qui détermine tous ses films. Le cadre peut être plus ou moins grand, il peut être très petit, Near Death, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un couloir avec 5 chambres. Le film dure 6 heures. Juste sur ce lieu-là, on passe d'une chambre à l'autre. Il y a des lieux plus grands, comme celui-là, un zoo. Il y a des lieux encore plus grands, Canal Zone, sur le canal de Panama, donc une zone vraiment grande. Il y a un film sur la ville Belfast, Maine, sur une ville, donc beaucoup plus large. Il y a des films encore sur le, où le paysage est encore un peu plus déformé, Ex Libris sur le réseau de bibliothèques à New York, et où éventuellement il peut aller d'une bibliothèque à l'autre, mais c'est un lieu tentaculaire, mais la logique est toujours celle du lieu. Alors, comment ça marche ensuite? Parce que, évidemment, cette histoire de contiguïté ne suffit pas à faire un film. Et qu'il va falloir avoir d'autres logiques qui vont organiser ce lieu. Je vais faire un autre petit détour par la peinture. Pardon. Bruegel, je fais la peinture, évidemment, comme j'appelle ça un film paysage, évidemment, c'est une référence à la peinture. Bruegel, le combat de Carnaval et Carême. Donc, c'est un paysage dont on peut dire, à première vue, c'est un gros bazar. Il y a du monde partout. On se demande un peu comment est structuré le film. Et c'est, on pourrait dire, la représentation du paysage du chaos de la vie humaine. Alors, on pourrait dire aussi, du point de vue du paysage, on pourrait enlever tout le monde et dire ce lieu est une place de village d'une ville du nord de l'Europe plutôt. Voilà, c'est un croisement et topographiquement, c'est une place de village. Mais on pourrait voir aussi, alors c'est pas moi qui analyse ce tableau, c'est un monsieur qui s'appelle Guy Bay, qui dit en fait ce tableau est d'abord un tableau où les choses sont le combat entre Carême à droite, celui qui porte la truc, la espèce de grand truc avec deux harengs dessus, et Carnaval à gauche. Et que tout le tableau est coupé en deux morceaux, avec à gauche tout ce qui est Carême, la religion, etc., et de l'autre côté tout ce qui est Carnaval. Donc on pourrait dire que ce tableau est composé sur une opposition entre deux pensées du monde, une pensée religieuse stricte et protestante en l'occurrence, et une pensée à gauche qui est plus joyeuse. Le tableau représente aussi le combat qui s'opère à cette époque-là, au XVe siècle, entre l'Église protestante et l'Église catholique, l'une revendiquant Carême et l'autre la refusant. Donc c'est aussi une organisation politique du tableau. Mais on pourrait dire aussi une autre organisation symbolique. Chaque séquence, chaque scène est le symbole d'autre chose. C'est une scène à gauche, une scène de théâtre, là, les religieux, etc., etc. Et donc il y a aussi une autre interprétation qui serait d'organiser le paysage par son système symbolique. Et enfin, il existe une troisième organisation, beaucoup plus subtile, qui est que, en fait, ce paysage n'est pas un instantané, mais que ce paysage, dans ce paysage, du temps passe. Il commence tout là-haut avec la dame, avec le monsieur sur la fenêtre, c'est Noël. Et quand on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du temps passe, je ne me rappelle plus toutes les histoires, carême, carnaval, puis ensuite on remonte avec les cendres et on arrive à Pâques là-haut. C'est-à-dire que l'organisation de ce tableau se déroule sur 3 mois, entre Noël et Pâques. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est que, évidemment, la peinture montre tout ça en un seul plan, en un seul temps, en un seul tableau. Mais qu'évidemment, pour le cinéma, ça ne va pas se passer comme ça. Il va bien falloir organiser toutes ces petites scènes qui ont été filmées pour en faire un film. Et donc la question de l'ordre dans lequel on va organiser les séquences va être essentielle. Alors, évidemment, Wiseman, attends, je regarde si je n'oublie pas. C'est bon. Donc, toute l'organisation de Zoo, on va parler de ça puisque évidemment c'est ça qui nous intéresse et que évidemment tout le monde a vu le film. Toute la pensée, enfin, toute l'organisation du film, des films de Wiseman se fait sur une pensée du monde. Il pense le monde, il pense toujours que chaque lieu est une métaphore du monde dans lequel on habite. Et que la grande réflexion de Zoo, c'est une pensée sur notre rapport au sauvage. Au début, globalement, on voit bien comment ce zoo est la représentation qu'on a du sauvage, enjolivé, avec des animaux qui sont beaux, dans des trucs un peu naturels. Et puis, au fur et à mesure, la machine se détraque et on voit bien comment plus ça va, plus ce qui nous semblait une représentation du naturel se dévisse et tout d'un coup devient de plus en plus violente. Et cette grande métaphore de la nature est vraiment ce qui fabrique l'entièreté de la structure du film et qui arrive au dénouement, enfin, en tout cas le moment où on arrive au summum, quand tout d'un coup il y a cette espèce de paradoxe dans cette double séquence qui est le moment où le loup est émasculé et où le chien est tué. Et qui est, d'une certaine manière, l'histoire de la fable de La Fontaine inversée, le chien et le loup, où, dans la fable de La Fontaine, le chien qui est bien gras, bien nourri, etc., et dans sa niche, et que le loup qui est flanqué et massier, lui, il se dit « Mais comment tu fais pour être si bien nourri ?» Et le chien lui dit « Oh, ben, tout va bien, on me nourrit, je suis bien, etc. » Et le loup remarque une marque sur le cou du chien, et il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui dit « Oh, ben, je suis attaché de temps en temps. » Or ici, c'est ça qui est assez amusant, ici, c'est le loup qui est attaché, puisqu'il est dans le zoo, et le chien qui est devenu sauvage. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce truc de la pensée du monde qui pour Wiseman est très importante. Tout film de Wiseman exprime toujours et toujours repose sur la pensée. Mais évidemment, de la pensée qui fait réfléchir à la pensée militante, on va dire, il n'y a toujours qu'un pas. Et je voudrais revenir sur une anecdote que Wiseman raconte lui-même à propos de Titicut Follies, son premier film. Dans ce film, qui raconte une prison hôpital psychiatrique où des gens qui sont là, les gens qui sont enfermés là, sont des psychopathes qui ont été des meurtriers, des pédophiles, etc. Et Wiseman filme ça, c'est son premier film en 1962. Il ne sait pas encore très bien le sens du montage. C'est son premier film. Et il va faire quelque chose qu'il va regretter toute sa vie. Il va faire une grave erreur de montage. Dans ce film, vers la fin du film, il montre un homme qui est nourri de force. La séquence est un peu éprouvante, et ensuite, il monte le plan du même homme mort. Puis, il remonte le plan de l'homme qu'on nourrit, puis le plan du même homme mort. Il dira lui-même, j'ai monté ça parce que je voulais montrer que cet homme était plus heureux, entre guillemets, mort que vivant. C'était une vraie position politique, démonstratrice, démonstrative, qui disait, voilà l'idée que je veux montrer. Il l'a regretté tout le temps. Dès qu'il parle d'une erreur de montage, il parle de cette erreur-là qu'il a faite en 1962, je crois. Pour contrer ça, Wiseman va poser deux règles auxquelles il ne dérogera plus jamais. La première règle sera de dire « Je garde systématiquement l'ordre de la séquence, l'ordre du réel dans le montage de ma séquence. » Jamais il ne transigera avec ça. Je fais une petite remarque parce que je l'ai déjà entendu cette remarque-là. Évidemment, quand il filme, si par exemple on filmait moi en train de parler et quelqu'un qui est en train d'écouter, ce serait évidemment plus tard, pas forcément en même temps. Donc bien sûr qu'il transige avec cette histoire d'ordre des plans, mais par contre l'ordre de la séquence, il ne transige jamais là-dessus. Ce qui s'est passé, on est sûr que ce qu'on voit dans le film s'est absolument passé dans cet ordre-là, dans le monde réel. Ce qui le protège absolument d'une volonté de déformer ce réel-là. La deuxième loi qu'il posera, c'est que une séquence commencée à un moment du film ne revient jamais plus tard dans le film. Dans Ticket to Fly, ça y est plein de fois, des séquences qui sont à plusieurs moments dans le film. Donc plus jamais il ne se permettra de couper une séquence en deux morceaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est toujours le problème quand on monte des films, c'est que, bien évidemment, on veut toujours dire quelque chose. On a toujours quelque chose à dire. D'ailleurs, si on n'avait pas quelque chose à dire, je pense que ce n'est pas la peine de faire des films. Et donc, bien évidemment, on a toujours quelque chose à dire. C'est ce que j'appelle la tentation, par contre, du théorème, qui est de dire, de vouloir prouver quelque chose. Donc Wiseman fera toujours très attention à ça. À partir de là, il n'y aura plus jamais cette question-là. Et il sera très content, très très content, quand il projettera Basic Training, qui est un film sur les entraînements des militaires qui partent au Vietnam. Et il sera très content quand, à la fin du film, à la fin d'une projection, il y a quelqu'un dans la salle qui lui dit « Oh là là, mais vous avez fait un film très militariste, très pro-guerre. » Et un autre dans la salle qui dira « Ah, vous avez vraiment fait un film très antimilitariste. » Ça, c'est la grande joie de Wiseman, ça. C'est vraiment sa grande joie qui est de dire « Je fais des films qui obligent à penser, mais ce ne sont pas des films militants qui doivent faire la leçon. » Voilà. Et donc voilà, maintenant conclure, je voudrais casser un autre mythe du cinéma et du montage, qui est la question du réel. Je vais vous lire un dernier petit texte de Wiseman, si je le retrouve, ouais. Dans ce même journal. Il est en montage de Zou, mais il va raconter autre chose. C'est qu'en même temps que Zou, il a tourné deux autres films, High School, qui sera son film suivant, et Ballet, qui sera son film encore suivant, je crois. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Il dit « Je n'aime pas avoir trois films inachevés à la fois, mais j'adore avoir les montés. Dans Zou, il n'y a pratiquement que des actions animales instinctives et très peu de dialogue. Dans High School 2, ça parle d'un bout à l'autre. Et Ballet est constitué de mouvements consciencieusement élaborés sur une musique superbe. Il faut que je trouve un style de montage approprié à chaque film. Comme toujours, ce n'est pas un problème que je peux résoudre dans l'abstrait. Pourquoi je lis ça ? C'est parce que il existe une mythologie qui est de la toute-puissance de celui qui fait le film. Or, ce qu'on voit là, et pourtant Wiseman est un monteur très régulier, qui a une esthétique propre, un peu toujours la même. Or, on comprend bien à ce moment-là, quand on lit ça, que malgré tout, le réel induit le montage. Pourquoi ? Parce que le réel a une logique qui lui est propre, et c'est quelque chose qu'on éprouve toujours au montage, c'est que ce qui est filmé induit une manière de monter. Et que le regard de celui qui fait le film est une chose, mais que, évidemment, le réel est aussi une réalité qu'on ne peut jamais nier. Je peux donner un exemple très très simple, c'est que si je monte, un peu caricatural, si je monte un entretien avec un vieil homme qui raconte ses souvenirs d'enfance, je suis obligé, quand je monte les plans de cet homme, de respecter son rythme interne. Si par opposition, je monte un jeune rappeur dans une cité à Ivry, évidemment la question du rythme du montage, mais aussi du filmage, parce que c'est ça que raconte Wiseman, mais aussi du filmage, sera forcément différent. Donc c'est juste pour dire que cette histoire du film et du montage est toujours un équilibre très compliqué à trouver entre celui qui fait le film, ce qu'il veut raconter, et le réel qui lui-même a un rythme qui lui est propre et une musique qui lui est propre. Voilà.
Merci beaucoup Luc Forveille pour ce très bel exposé sur le montage. Est-ce qu'il y a déjà des... Oui ? Toi, tu veux y aller ?
Vas-y. Luc, merci beaucoup. Et le point de vue de la construction et de la fabrication est évidemment celui qui est le plus éclairant, je trouve. Je voulais faire deux remarques. Quand au tout début, tu nous as dit qu'il y avait une attente du spectateur dans le passage d'un plan à un autre, je voudrais apporter une petite nuance qui va me permettre de te poser une question. Lorsque, par exemple, nous avons un plan de la femme qui écrit et le plan suivant, le cahier sur lequel elle écrit, la première et la dernière image ont quelque chose en commun, c'est le cahier. Donc on peut passer de l'un à l'autre à peu près spontanément, au prix d'une petite déduction, ce qui veut dire que la pensée du film, c'est pas seulement la pensée morale, politique ou philosophique, c'est aussi le point de colle que nous faisons pour articuler deux images. Donc il y a cette pensée aussi. Mais justement, lorsque nous voyons cette femme regarder avec des jumelles et le plan suivant, ce qu'elle regarde, ça n'a rien de naturel. Il suffit de montrer un film à quelqu'un qui n'a jamais vu de film et il ne fera pas le point de colle. En réalité, le point de colle est fait parce que nous avons l'habitude de regarder des films, que c'est devenu un lien, mais tu le sais, c'est devenu un lien logique que nous acceptons, mais voir quelqu'un qui regarde et voir ce qu'il regarde et comprendre que l'image suivante c'est ce qu'il regarde, c'est une invention du cinéma. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que souvent dans le cinéma, nous fabriquons des liens, et la pensée du film, tu l'as merveilleusement dit, c'est de quelle manière nous fabriquons des liens, et pas seulement cette pensée à un degré plus élevé. Alors, je voudrais aussi dire une chose, c'est que la nature des liens qui nous permettent de passer d'une image à une autre sont différents selon le pacte de lecture et le pacte d'écriture propre à des genres cinématographiques. par exemple, le champ contre champ, qui est très acceptable dans le cinéma de fiction, l'est moins dans le documentaire. Je prends un exemple. Dans le cinéma d'Ozu, une jeune femme parle, un homme lui répond, et les deux visages sont exactement superposés et à 180 degrés l'un de l'autre. Mais nous comprenons immédiatement que c'est l'homme qui regarde la jeune fille et qui lui répond. Les yeux se recouvrent, c'est d'ailleurs très beau et très amusant. Mais donc, c'est une tournure de style qui est propre à un cinéma dans lequel on peut passer instantanément d'un regard sur une chose à son contraire, c'est-à-dire au point de vue opposé, ce qui n'est pas naturel. Ce qui signifie donc que le regard, dans un certain type de cinéma, peut se permettre quelque chose qui est tout à fait inouï, c'est-à-dire l'instantanéité. On accepte très bien l'ellipse dans un film. On accepte très bien que 5 minutes soient enlevées, qu'on passe d'une chose à une autre avec le passage du temps. On en a l'expérience personnelle. Mais l'instantanéité, on ne l'accepte que dans un régime de récit qu'on appelle, pour simplifier, la fiction, c'est-à-dire dans lequel la caméra n'est plus soumise à la réalité du temps. Mais dans un film de fiction, faire un champ contre champ, c'est difficile. Dans un documentaire, c'est difficile parce qu'on sait dans un documentaire que la caméra est là en même temps que les choses qu'on filme et que donc elle est soumise à la même viscosité du temps et de l'espace, elle ne peut pas s'en échapper. C'est d'ailleurs ça le plaisir du documentaire, je pense. Donc, je dis ça parce que curieusement, de temps en temps, je trouve dans Wiseman des petites erreurs de montage qui ne sont pas aussi dérangeantes que celles dont tu as parlé pour Titicut Follies, mais j'en ai encore vu une ici au tout début. Les éléphants tournent en rond, ils s'en vont, on voit un plan avec des tentes jaunes, des gens qui passent, et on continue d'entendre la dompteuse des éléphants qui dit hey, « McClary, je ne sais pas quoi, viens, viens, viens », et ils s'en vont. Et chaque fois que je vois ça chez Wiseman, j'ai un petit pincement parce que ça lui arrive de temps en temps de faire ça. Et je me dis, au contraire, ce qu'on aime chez lui, c'est qu'on passe d'une image à une autre assez souvent, en tout cas d'une scène à une autre, en cut, sans faire semblant que c'est le même monde et qu'en ouvrant une porte, on trouve ce qu'on avait entendu, etc. Et je voudrais que tu me dises pourquoi... Ouf, enfin bon, que tu développes alors, cette gêne.
Non, alors, sur cette histoire, alors, j'ai parlé des raccords. Enfin, ma question essentielle était la question du rapport du temps réel et du temps représenté dans sa, on va dire, dans sa logique réaliste. Parce que c'est une vraie question pour Wiseman, la question réaliste du temps. Évidemment, quand je parle de ça, je ne parle qu'une infime partie des raccords. Une infime partie des raccords. Si, dans le film que j'ai fait sur cette conférence, je monte un plan, soit des spectateurs, soit de moi qui parle, et qu'après, je mets le plan sur une banane, par exemple, évidemment, le spectateur va être obligé de faire un effort considérable pour mettre un rapport entre le plan de moi et le plan de la banane. C'est le problème du raccord. C'est sa puissance et sa fragilité. Le raccord, si par exemple, j'ai deux tableaux qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont en relation, le spectateur peut voir un tableau et l'autre tableau. Mais si j'ai deux plans qui sont accrochés, le spectateur ne pourra pas faire autrement que de chercher un rapport entre les deux plans. C'est ça qui est très important dans la question du raccord. Ça a été la grande guerre, l'immense guerre du montage entre les formalistes russes en 1920 et les Américains. Et ça a été de dire que les Russes disaient coller deux plans, c'est une question de sens. Ça fait un sens politique. Les Américains disaient c'est une restitution du temps réel. Donc, je n'ai parlé sur la question du raccord que sur cette question-là. Je vais après parler de la question du documentaire, etc. Mais c'est vraiment, évidemment, quand je parle des raccords chez Wiseman, comme il est dans une logique réaliste, on va dire. On n'a pas l'impression qu'on assiste à un monde irréel quand on voit les films de Wiseman. Et que, évidemment, cette question de restitution du temps et de fausse réalité du temps est très importante dans les séquences de Wiseman. Petit détail, c'est que, évidemment, Wiseman, quand il travaille, sa méthode de travail, tout le temps, c'est de dire « je monte toutes les séquences de manière indépendante ». Il passe 5 mois à monter les séquences, sans savoir où elles vont aller, sans trop savoir où elles vont aller. Je le soupçonne de commencer à savoir au fur et à mesure. Et évidemment, chaque séquence est un petit morceau de temps. L'accouchement d'un femelle rhinocéros, la mise bas d'un femelle rhinocéros, c'est 11 heures qui sont résumées en 8 minutes avec une sorte de continuité temporelle. Une sorte, je sais très bien que c'est faux. Je sais très bien que c'est faux. Ensuite, la méthode de Wiseman, c'est de dire, il fait une vraie séparation entre comment il monte les séquences et comment il monte la structure du film. Une fois qu'il a monté toutes ses séquences au bout des 5 mois, il va prendre les séquences, il va dire comment j'organise tout ça. C'est ce que j'ai expliqué sur la pensée. Et qu'évidemment, il ne se formalise pas pour passer d'une séquence à l'autre, par exemple, il ne se formalise pas sur cette question du temps. Pas du tout. Là, il en fait 2-3 petits trucs, il met des plans de lune pour faire bien comprendre que c'est la nuit et que du temps passe, mais il ne fait plutôt pas ça. Il ne fait plutôt pas ça. Il le fait un peu plus là parce qu'on est dans un milieu naturel. Donc dans les milieux naturels, il joue un peu plus du temps de la nature. Mais évidemment, quand il est dans un hôpital, ben, qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas faire passer du temps. Donc ce qu'il fait quand il est dans un hôpital, je peux vous dire, il met par exemple un plan dans la salle d'attente. C'est son grand truc. On voit même ici qu'il a un petit gimmick, c'est le train qui passe. Le train qui passe est un vrai truc, changement de chapitre. Vous pouvez être sûr que dès qu'il y a un train qui passe, on va changer de thématique ou on va changer d'idée. D'accord ? Alors, quand on est dans d'autres films, c'est alors, les hôpitaux, les centres sociaux, les centres domestic violence, les femmes qui sont violentées, etc. C'est les salles d'attente en général. Donc voilà, donc c'est juste pour ça que de dire que évidemment il y a, je crois, une sorte de recherche de réalisme dans la séquence, et évidemment la structure du film, elle, il ne s'embête pas, il fait des ruptures fortes. Je voulais juste finir sur cette histoire du champ contre champ parce que c'est vrai. Alors je suis d'accord avec toi que bien sûr ce sont des codes auxquels évidemment moi, quand je travaille, quand je monte des films, bien sûr, je pense à faire des films pour mes pareils ou plus ou moins pareils, évidemment. Et que je ne pense pas, je pense que toi, tu penses à des aborigènes, par exemple, perdus, qui n'ont jamais vu de film, etc. Et que, évidemment, je ne pense pas à ça, je l'avoue. Voilà, je pense forcément à un circuit, je pense à un film qui va sortir en salle et vu par un public français ou pas français, mais enfin bon, plus ou moins éduqué au cinéma, et que bien sûr, c'est à ce langage-là que je réponds quand je monte. Et que globalement, on va dire que quand la femme regarde dans ses jumelles, parce que je sais ce que c'est que des jumelles, je me demande ce qu'elle va voir. Voilà, on va dire ça. Voilà. Après, cette question de la simultanéité, évidemment, c'est un peu une arnaque du documentaire de faire croire au champ contre champ. C'est un peu une arnaque parce que, bien sûr, je sais bien qu'en documentaire, dans 99% des cas, il n'y a qu'une seule caméra. Et donc, forcément, le contre-champ a été filmé plus tard. Au moins, le temps de tourner la caméra et de filmer la suite. Même si moi je coupe le mouvement de caméra, il y a du temps qui passe, forcément. Ou l'équipe se déplace, ou la caméra va se poser, ou il y a, et de temps en temps, il y a une deuxième caméra. Mais bon, en général, quand même, en documentaire, il n'y a jamais de deuxième caméra.
C'est une règle de Wiseman à laquelle il a dérogé pour Juvenile Court.
Voilà, exactement, voilà. Non, il a deux, trois fois dérogé quand même. Hein. Near Death, il déroge aussi sur des principes de montage.
Sur la question du son et de ce débordement, je trouve que Zoho est sûrement une des grandes fictions sonores de Wiseman. Hein, et il joue beaucoup à créer des... Enfin, vraiment, je trouve... Central Park aussi, d'ailleurs, il joue beaucoup avec...
C'est plus facile dans la nature. Hein, c'est plus facile dans la nature.
Voilà, de fiction d'une nature. Voilà.
Oui, très domestique.
Alors, sur la question du montage et de Wiseman en particulier, on parle des rapports, des rapports entre plans qui se succèdent. Et vraiment, j'ai l'impression que Wiseman aussi... Alors, je sais que c'est un terme de montage qui renvoie à Vertov, mais le montage à distance. Et on a aussi... est-ce que tu peux nous parler de ça? Tu as parlé de la castration et le chien. Et donc, Wiseman a aussi cette...
Bien sûr. Il y a un truc qui m'a vraiment frappé en revoyant là. C'est la nourriture. C'est-à-dire que le plat qui est fabriqué pour les animaux est exactement le même... qui est donné ensuite aux invités à la fin. Que les mères qui jouent et les pères qui jouent avec leurs enfants dans le parc, enfin dans l'aire de jeu, sont exactement les mêmes choses que les animaux qui jouent avec leurs bébés. Donc, bien sûr, il y a des correspondances. C'est-à-dire que pour Wiseman, j'aime beaucoup cette manière dont il a de raconter les choses. Il dit une séquence est toujours en même temps littérale et abstraite. Et c'est exactement ça. La littéralité, c'est l'histoire racontée, c'est une mise bas de la femelle rhinocéros. Mais, évidemment, c'est aussi une abstraction sur qu'est-ce qu'on fait d'un accouchement de rhinocéros qui, quand il se passe dans la nature, personne n'est là pour voir. Et si le bébé rhinocéros meurt, tout le monde s'en fout. Personne ne va aller lui faire un massage cardiaque, du bouche à bouche, une piqûre, etc. Et personne ne sera désespéré. D'ailleurs, la femelle rhinocéros, on ne sait même pas très bien. On croit qu'elle est triste, mais on n'en sait rien. Et qu'une séquence est toujours littérale et abstraite. Elle raconte toujours ce qu'elle raconte, et elle est abstraite parce qu'elle symbolise quelque chose et elle raconte autre chose sur le monde. On peut voir d'ailleurs une évolution dans le travail de Wiseman là-dessus, c'est que il le dit un peu lui-même, plus ça va avec les années, il dit plus je vieillis, plus il se laisse aller au romanesque des séquences, c'est-à-dire à leur littéralité. Plus ça va, plus les séquences sont longues, on pourrait dire, d'une manière un peu pratique, et que c'est bien parce que c'est pas tant l'abstraction, bien sûr c'est toujours l'abstraction, mais plus ça va, plus il avance dans sa filmographie, plus la littéralité et le romanesque prennent de l'importance. Si on regarde ses tout premiers films, comme par exemple Hospital, on s'aperçoit que le film est vraiment chapitré vraiment sur la question du corps, où c'est le corps qui subit, le corps qui est un objet, le corps qui appartient à quelqu'un, le corps dont on s'occupe, et que le film est vraiment fonctionne presque par chapitre, avec à chaque fois une salle d'attente, en général. Et donc, c'est bien que la littéralité, il l'intéresse moins au début de son travail, et que c'est l'abstraction qui est d'abord première pour lui, et que plus ça va, plus il avance dans sa filmographie, plus la question du romanesque et de la littéralité prend de l'importance.
Oui, et effectivement, il y a un formalisme du montage aussi qui est à l'œuvre dans Basic Training, par exemple. Est-ce qu'il y a des interventions ?
Merci beaucoup. Merci pour cette présentation vraiment passionnante. J'avais une question sur le fait que Wiseman, me semble-t-il, mais je voulais vérifier ça auprès de tout le monde ici, monte seul ses films depuis le début, depuis Titicut Follies. Qu'est-ce que tu y verrais du point de vue de la complexité à laquelle tu as fait référence? Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que cette pluralité et le fait qu'on puisse avoir des avis absolument opposés du point de vue des opinions après un film de Wiseman, on aurait pu imaginer que ça viendrait du fait qu'il a besoin d'extérioriser quelque chose au montage. Or, là, il est tout seul. Il y a même quelque chose de l'ordre du pouvoir qui se renverse. Si on y voit une métaphore entre le montage ciné et le montage institutionnel, la pluralité des paroles dans tous les lieux et la subjectivité assumée en solitaire, voilà, c'est une question qui me faisait réfléchir à ça. Et par rapport aussi à la question du lien entre le tournage et le montage, je sais qu'il y a eu pas mal d'écrits là-dessus, mais j'étais curieux de savoir ce que tu pensais du saut vers le numérique qui a été, je crois, difficile pour Wiseman dans cette organicité, matérialité qui a été perdue.
Alors, sur la question qui monte seule, je pense que ça n'a aucune incidence. Aucune incidence pour moi. Voilà, moi je suis monteur, mais je considère d'abord que en rien, je ne suis responsable du film. En rien. C'est toujours le réalisateur, pour moi, dans la salle de montage, qui a raison. Et donc, c'est toujours le film d'un réalisateur. Moi, ma position, elle est juste de l'aider. Manifestement, Wiseman n'a pas besoin d'être aidé. Manifestement, il a fait 40 films, c'est pas mal. Comme dit Stéphane, il y a un peu des erreurs, je trouve. Il y a un peu des erreurs de temps en temps, des maladresses et tout ça. Mais honnêtement, s'il est bien comme ça, si ça lui permet de travailler longtemps, parce qu'évidemment, il passe un temps très long sur ses films, puisqu'il passe 6-8 mois, ce qui est assez long. Moi, quand je monte des films, c'est plutôt 3 mois, on va dire. C'est les durées standards, et que évidemment à pouvoir monter seul, il peut travailler beaucoup plus longtemps. Alors, sur le passage au numérique, alors là, pour le coup, je suis un très mauvais client, parce que moi, la question du tournage, de comment ça se passe, etc., ne m'intéresse pas en tant que tel. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui a été tourné. C'est ce qui a été tourné. Alors, je peux juste dire, du point de vue de la salle de montage, la grosse différence qu'il y a eu, c'est la question qu'on est passé de 20 heures de rush à 150 heures de rush. Ça, c'est la vraie différence. Et là, je la vis quotidiennement. Je la vis quotidiennement. C'est-à-dire que, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas la question du montage, regarder des rushs, je regarde, on va dire, si je regarde 25 heures par semaine, parce que c'est notre travail épuisant, c'est beaucoup. 25 heures par semaine, s'il y a 150 heures de rush, on comprend bien le temps que ça prend. Et, de manière indirecte, les salaires que ça coûte. Parce que c'est aussi une industrie avec de l'argent, etc., etc. Et donc, la question du numérique est essentielle pour ça, et que c'est un fait que, pas avec tout le monde, mais avec un certain nombre de personnes, j'ai changé mes méthodes de travail liées au numérique. Avec Claire Simon, donc avec qui je travaille pas mal, en général, alors, maintenant, on a un peu changé. On a rechangé il n'y a pas très longtemps. Mais en général, je ne regarde pas tous les rushs. Elle fait elle-même des sortes de présélections qu'on regarde ensemble. On en discute. Je dis ce que je vois, ce que je ne vois pas. Elle me dit ce qu'elle cherche. Je lui dis ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Si je le vois, si je ne le vois pas. Et puis ensuite, elle s'en va. Elle va faire une autre présélection et elle me laisse monter tout seul. Donc voilà, donc ça c'est des méthodes de travail qui fait que c'est des choses qui ont changé liées à la quantité de rush. On a commencé à le mettre en place parce que le premier film qu'on a fait ensemble, c'est Le bois dont les rêves sont faits, qui a été tourné sur 15 mois, 90 jours de tournage je pense, et donc on va dire 4 heures de rush par jour, quoi. Et que forcément c'est un vrai souci de temps pur. Donc moi, c'est la seule chose qui fait la différence pour moi du numérique dans ma pratique.
Weisman a pas, enfin, il a, en tout cas, il s'est beaucoup accroché à l'argentique. Voilà, Boxing Gym 2010, encore un magnifique 16 mm format carré. Et c'est avec Crazy Horse. Hein. Alors, il accumulait anormal. Enfin, il faisait une accumulation déjà anormale en argentique de rush. Et donc, ça n'a pas tout à fait bouleversé la quantité. Peut-être un petit peu, mais ce n'est pas un triplement, un quadruplement, c'est peut-être 10-15% de rush en plus, mais en tout cas, ça n'a, ça, voilà. Voilà, ça n'a pas, de ce que je sais, ça n'a pas bouleversé la quantité. Il a toujours travaillé avec une matière très très abondante. Déjà, dans ses premiers films, c'était déjà 80-90 heures, ce qui est vraiment... énorme en argentique.
Monsieur. Oui, moi je connais pas d'autres trop bien le cinéma de Weisman, mais par exemple, est-ce que Weisman a fait beaucoup de portraits documentaires et quelle était sa méthode dans ce cas-là, par exemple?
Alors, il n'a fait aucun portrait documentaire, il n'a fait que des films paysages. Pour le coup, il a une vraie constante, c'est qu'il n'a fait que ça. Ses films sont toujours, il va dans un lieu, je peux même m'expliquer sa méthode de travail, il va entre 8 et 10 semaines dans un lieu dans lequel il tourne 5 jours par semaine, de 9h à je ne sais pas quoi, sauf évidemment les trucs quand il y a des soirées, etc. Et voilà, et il y va et il en part. Même si on lui annonce... peut-être pas à ce point-là, mais si on lui annonce qu'un gros événement va arriver, éventuellement, il en part avant. C'est jamais la question de l'événement qui se passe dans ce lieu qui est sa motivation. Ce n'est jamais la question de l'histoire. C'est-à-dire que les histoires, ça ne l'intéresse pas. Il y a bien sûr des histoires. On va dire que là, par exemple, il y a une petite exception, c'est l'histoire du rhinocéros, où on a 4 séquences, et même des ensuite, même quand il y a la réunion, il continue à en parler. Donc, on va dire que dans ce film-là, il y a l'histoire du rhinocéros. Mais c'est rarissime chez Weisman. Vraiment rarissime. En général, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Alors, évidemment, quand il y a des histoires qui se passent dans le film, quand j'ai dit qu'il ne tient pas compte, par exemple, de l'ordre du réel, quand il y a quelqu'un, quand il y a un truc comme ça, évidemment... Quand il y a la mise bas de la femelle rhinocéros, la visite où il rend visite à la femelle est forcément après. Même si abstraitement elle voudrait raconter autre chose, il suit malgré tout, il respecte, en pensant que si on s'aperçoit qu'il y a une discontinuité dans la réalité, ça va nous paraître anormal, mais sinon, il ne suit jamais les histoires. Il ne suit jamais les histoires. Il y a évidemment, quand il filme des institutions, je pense par exemple quand il a filmé le musée à Londres, évidemment, le directeur du musée, la directrice du musée, les conservateurs, on les retrouve d'une scène à l'autre parce que c'est un personnel, c'est nombreux, mais pas si nombreux que ça, donc on les retrouve, mais on ne suit pas leurs histoires, quoi. C'est toujours la question du lieu. Chez Weisman, vraiment, c'est... le lieu, mais je pense que c'est tous les films paysages, c'est comme ça, le lieu est toujours une métaphore du monde. C'est toujours le lieu raconte quelque chose sur notre monde. Et ce que Weisman dit, c'est que quand il arrive dans le lieu, il ne sait pas de quelle métaphore ce lieu est l'expression. Il comprend la métaphore quand il y est, voire même quand il monte. D'accord ? Donc il n'arrive pas, il dit toujours ça, il n'arrive pas avec une idée préconçue sur le lieu, sauf que quand c'est une bibliothèque ou s'il faisait un film ici sur la BPI, il sait que c'est un musée, etc., qu'il y a une cinémathèque, il connaît quelque chose. Mais par exemple, Weisman ne repère jamais, ne va jamais avant dans les lieux avant qu'il tourne. Il obtient l'autorisation et le premier jour où il y va avec son caméraman et lui avec sa perche, plus maintenant je crois, parce que c'est lui qui fait le son. Et donc, il arrive, il ne sait rien du lieu, et il le découvre. On pourrait dire que le scénario de chaque film est malgré tout l'histoire de la découverte du lieu par Wiseman. C'est éventuellement le scénario qu'on pourrait retrouver dans tous ces films, ce qu'il comprend au fur et à mesure. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément lors du tournage, mais c'est la restitution de cette découverte qui se passe pendant les films.
Je crois qu'on va devoir, par contre, arrêter. On peut peut-être...
Luc, tu es sûr qu'il ne fait pas de repérage parce qu'on m'avait dit le contraire. On m'avait dit qu'il passait un mois à marche forcée en cavalant et qu'il avait tout vu, tout compris et qu'il revenait. On m'a dit ça pour Belfast Maine.
Alors, Belfast Maine est une chose un peu différente. Belfast Maine est un endroit qu'il connaît par ailleurs. L'endroit qu'il a dû repérer pour d'autres raisons, c'est la Comédie Française. Oui. Il a dû la repérer parce que, donc il a fait un film sur la Comédie Française en France et que la question des autorisations de tournage ont été d'une complexité à la française inouïe. Et donc il a dû aller pendant 2 mois à la Comédie Française pour négocier les autorisations. Alors, pour moi, il ne va pas repérer.
Mais je crois, avec les syndicats.
Avec les syndicats, avec tout. Oui, voilà, oui, avec les syndicats, avec l'administration, avec tout ça. Oui, oui, oui.
Non, mais.
Alors, oui, mais c'est une histoire et ça ne l'intéresse pas.
Il y a une séquence sur la négociation des retraites.
Oui, un peu.
Mais bon, en tout cas, non, l'idée de Wiseman, alors effectivement, il peut avoir une connaissance préalable, des lieux. Mais alors il dit une demi-journée, une journée, mais il n'y a aucun repérage préalable. Et effectivement, il est plutôt intéressé par un état d'ignorance.
Oui, découverte. Et de pas arriver avec de filmer avec le moins d'a priori possible.
Bon, on a dépassé. Merci beaucoup, Luc. C'était un plaisir. Et merci, Jérôme, en cabine. Et à la semaine prochaine, ce sera Laetitia Michael sur Boxing Gym. Voilà, un peu de sport. À bientôt.